Vous avez raison, il y a quand même une dimension narrative aussi sur le parcours du candidat. Dans le cas d'Obama, par exemple, on nous raconte ce type formidable, élevé à l'étranger, puis à Hawaï par sa grand-mère, très très intelligent, patron de la Harvard Law Review, le premier noir à occuper ce poste, et qui derrière refuse toutes les propositions des grands cabinets d'avocats parce qu'il veut aller faire un travail de community organizer, qui est un mot, personne ne sait vraiment ce que ça veut dire, mais ça inspire quand même un peu le respect.
Et qui n'est pas évident à traduire en français.
Voilà, surtout. Donc une sorte de travailleur social qui va travailler dans les banlieues de Chicago, où il gagne un dixième probablement de ce qu'il aurait pu gagner en travaillant à Wall Street ou à Washington. Bon, animé de cette énorme conviction, il rencontre sa femme, elle est sur la même longueur d'onde, ils ont ce parcours fantastique, avec leurs deux petites filles, ils vont rentrer à la Maison Blanche et ils vont acheter un chien quand ils seront à la Maison Blanche. Bon, ça c'est le parcours. Et puis, il y a des gens quand même qui disent, bon, il faut aussi voir certaines choses. Obama, c'est quand même un type qui a été élu pour la première fois à Chicago. Chicago, c'est le panier de crabe de la politique. C'est quand même, l'Illinois a cette réputation. Le père de Kennedy a acheté l'élection de son fils avec des faux bulletins dans l'État d'Illinois. Donc, on peut pas ne pas se demander quelle compromission Obama a dû faire pour obtenir un poste, pour être candidat d'abord au Sénat de l'Illinois, puis au Sénat américain pour l'État d'Illinois. Voilà, il a réussi à raconter son histoire de manière extrêmement convaincante et à décourager quelque part le questionnement. Disons qu'il a été plus audible que ses détracteurs sur le sujet.
Alain Gérard, puis Marc Kravetz. Alain Gérard.
Oui, le storytelling a quelque chose de navrant, c'est-à-dire que ce n'est plus le projet de société qui fait rêver. N'est-ce pas? C'est ça le problème du storytelling, d'ailleurs l'expression en elle-même. C'est quelque chose, ça peut être aussi bien la passion pour la Rolex, et tout ce qui tourne. Et on peut construire autour de ça un storytelling, ou s'imaginer en tout cas qu'on le fait. Puis il y a une dimension idéologique. Alors, dans le cas de Bush, il y a la bêtise, qui est un acteur quand même extrêmement important de l'histoire, il y a le complot, et alors il y a le troisième élément, qui est l'idéologie. Je signale au passage d'ailleurs un livre de Justin Vaïs, absolument remarquable sur les néo-conservateurs, à lire vraiment, très très important. Et je regarde là un supplément de Télérama, supplément qui ne peut être vendu, qui est associé à des numéros, où il est demandé à 100 écrivains de dévoiler les livres de leur vie.
J'allais vous dire justement, Antoine Bello, à la fin de l'émission, quels étaient les livres de votre vie. Allez-y Alain Gérard, et on reviendra au roman ensuite.
Mais parmi ces livres, puis j'ai posé des questions précises, il y a Atlas Shrugged, le best-seller de Ayn Rand. Donc, vous avez peut-être été saisi à un moment donné par la séduction de cette femme Ayn Rand qui a eu un succès absolument colossal avec ce livre qui s'est vendu des centaines de milliers d'exemplaires. C'est la grande prêtresse du très radical. Tendance Frédéric Bastiat, en gros. Alors ça m'intéresserait de savoir un petit peu comment vous vous situez par rapport à ça puisque vous donnez ce titre dans votre livre.
Antoine Bello. Liste.
C'est un livre, en effet, qui est absolument fascinant. Quand on demande aux patrons de grandes entreprises américaines ou aux parlementaires américains les livres qui les ont les plus impressionnés, Ayn Rand, ce livre Atlas, arrive premier ou second derrière la Bible. C'est quand même assez...
Qu'est-ce que c'est que ce livre pour ceux qui ne l'ont pas connu, parce que c'est une référence incontournable aux États-Unis, moins en France.
Absolument, qui n'est pas traduit en français d'ailleurs, ce qui me paraît véritablement incroyable. C'est un livre de plus de 1000 pages qui est écrit. Alors, il y a plusieurs choses à en dire. Il est d'abord écrit par une Russe qui émigre aux États-Unis à 18 ans ou 20 ans, qui apprend l'anglais très vite, devient scénariste à Hollywood, puis romancière. Pour quelqu'un dont c'est pas la langue natale, c'est quand même assez remarquable, et qui écrit donc plusieurs livres qui créent un courant de pensée dont Atlas est un petit peu le chef-d'œuvre. Donc c'est un roman, c'est véritablement une ode au capitalisme. Ça raconte l'histoire d'une société américaine, c'est pas situé dans le temps, mais on est probablement dans les années 50 ou 60, et la société petit à petit s'arrête. Parce que les moteurs du capitalisme, les moteurs de la création et de l'invention, c'est-à-dire les entreprises, les entrepreneurs, mais aussi des penseurs, des musiciens, mais toujours des grands créateurs, disparaissent.
C'est un jour, de Saint-Simon.
Un jour, ils ne sont plus là. Et évidemment, la première réaction des gens autour, la plupart du temps, c'est de dire bon débarras, on n'avait pas besoin d'eux, après tout, il est parti, mais il nous a laissé son entreprise, et c'est ça qui compte. Et on se rend compte très rapidement que l'économie va commencer à péricliter. Et il y a un projet donc de ces gens qui se sont retirés, qui est, ils veulent qu'on leur demande de revenir, et c'est l'occasion pour eux d'imposer la liste de leurs conditions et d'expliquer que on a véritablement besoin d'eux. Bon, donc c'est un ode véritablement au capital force de la création. C'est un livre qui a énormément inspiré Alan Greenspan, par exemple, dont on parlait tout à l'heure. Je ne suis pas fasciné par cette théorie. Je suis fasciné d'abord par le projet littéraire, par le destin de cette femme qui, c'est quand même une Russe qui écrit le grand livre du capitalisme américain. Et je suis fasciné par la singularité et l'unicité de ce livre. Il n'y a presque qu'un grand livre du capitalisme, alors qu'on compte tellement de grands livres, du marxisme, de la lutte sociale. Et c'est un livre qui n'a pas eu de descendance. Alors, il a un culte aux États-Unis, mais il n'y a pas d'équivalent, encore moins en France.
Atlas Shrugged, Dane Rand. Ce qui est assez amusant, d'ailleurs, Alain Gérard, c'est que c'est le livre que vous avez retenu dans la liste où on trouve aussi les 120 journées de Sodome, de Sade, où
absolument,
on trouve l'immoralisme d'André Gide.
Que c'est le genre de littérature à quoi je suis inaccessible, cher Annie. Non, mais ma question...
D'amour, Alain Gérard, Marc Kravets
va
intervenir sur le livre.
C'est important. Ça veut dire quand même qu'il y avait au départ chez vous une certaine sympathie pour ces néo-conservateurs. Parce
Antoine
que
Bellon.
Eux, ils ont été quand même très marqués par Ayn Rand.
Oui, mais enfin, attention, là, c'est, on peut. Vous êtes dans l'association d'idées. C'est pas parce que les néoconservateurs et moi, on a lu Ayn Rand que je suis proche des néoconservateurs. Enfin, il y a plein de choses qu'on a lues en commun. Et qui fait pas de moi l'ami de ces gens-là. Non, j'ai jamais été vraiment particulièrement sensible. Non, je ne suis pas sensible à l'idéologie des néoconservateurs. Je ne pense pas que les Américains ont le droit de déclencher des frappes préemptives. Je ne pense pas qu'il leur revient d'organiser le monde. Je suis extrêmement loin de ça.
Marc Kravets.
J'étais partagé. Je voulais plutôt parler de votre livre d'abord. C'est ce qui est un livre étrange. Enfin, d'ailleurs, il me donne une bizarre impression. Il me donne l'impression dans mon travail quotidien d'être un plagiaire, peut-être un de vôtre d'ailleurs, d'avoir vous avoir plagié avant de vous avoir lu, puisque en gros, si j'ose dire très modestement, je n'écris que 477 pages que au bout d'un an, mais au jour le jour, j'ai l'impression de travailler avec vos personnages, quoi, si je peux me permettre, tous les matins et ailleurs, et c'est assez fascinant parce que d'une certaine façon, Vous le disiez d'ailleurs dans la première partie de l'émission, je vous écoutais avant d'entrer dans le studio. Après tout, la vérité, celle des journaux, celle de tout le jour, n'est jamais qu'une version possible. Idée que je partage totalement. Mais il y a, par exemple, vous parliez de l'entrée en guerre des États-Unis en Irak. Il y a ce personnage extraordinaire. Je ne sais pas parce que j'ai pas tout écouté à un moment donné si vous en avez parlé, de Curveball. Donc le faussaire absolu qui pour sortir d'Irak, en fait. Le faussaire intelligent et malin qui pour sortir d'Irak, donc on en avait fait le portrait ici. C'est inventé une formidable histoire qui est en fait à l'origine de celle que la CIA va vendre à Cheney, qu'il va vendre lui-même à Colin Powell aux Nations Unies, pour précéder l'entrée en guerre. Et c'est vrai qu'avec un tel personnage, vous l'auriez inventé, on aurait dit que vous exagériez. En réalité, ce personnage existe vraiment. Et c'est lui qui est en fait le vrai faussaire de l'histoire. C'est lui. Donc, je suis évidemment très fasciné en vous lisant par cette mise en abîme permanente. On ne sait pas où commence vraiment le faussaire. Et j'avais l'impression d'être...
Catherine Clément acquiesce.
Et l'autre... Alors, la question littéraire, puisque vous en êtes une référence littéraire, que j'avais envie de vous poser, c'est évidemment par rapport à deux géants... Orwell, Zinoviev, ça vous inspire quelque chose?
Oui,
Antoine Bellon.
Je les ai pas mis dans la liste des dix livres. J'aurais évidemment pu le faire. Orwell notamment. Enfin, j'avais tout compris, tout vu, avait compris à quel point le langage façonne les représentations du monde et les consciences.
Catherine Clément.
Les hauteurs béantes, non, ça ne nous dit rien.
Si. J'ai lu les hauteurs béantes aussi. Je suis plus sensible à Orwell.
J'ai peut-être pas lu assez attentivement, j'ai pas trouvé qui finançait le consortium de falsification du réel.
Mais il explique, alors je veux pas...
tout dire non plus, c'est quand même un livre à suspense,
mais
planer un peu le mystère.
Voilà, il y a une sorte de...
Ne répondez pas d'ailleurs Antoine Delon, ce sera plus simple.
Non. Il y a une petite facilité romanesque. Le fondateur du CFR, il y a très longtemps, a très bien doté l'organisation. Et depuis, cet argent a fructifié et leur permet de financer leurs opérations. J'ai pas voulu rentrer dans le détail.
Donc ce sont des gens qui n'entrent pas à l'origine dans un scénario géopolitique précis. Ils ne sont pas d'un camp ou de l'autre.
Ils sont du camp de l'esprit et de la raison. Mais je n'en dirai pas beaucoup plus.
Alain Gérard.
Oui, vous citez la taupe de John le Carré.
La taupe de John le Carré, c'est donc dans la liste des écrivains de votre vie. C'est le supplément de Télérama cette semaine qui présente 100 écrivains qui dévoilent les livres de leur vie à l'occasion évidemment de l'inauguration du Salon du Livre. Ce sera demain soir, inauguration au cours de laquelle on vous remettra donc le prix du livre Télérama France Culture, Antoine Bello, pour Les Éclaireurs, ce roman qui paraît chez Gallimard. Merci infiniment de vous être arrêté dans le studio de France Culture.